Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40, passé de 30 secondes sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre. Cette semaine, X-Files, la série de Chris Carter, restée dans les annales des phénomènes de société à tout pile 25 ans. Deux agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, planchent sur des affaires non résolues, impliquant des phénomènes paranormaux. Avec l'idée qu'on leur cache quelque chose, avec l'idée surtout qu'on nous cache quelque chose. X-Files, fiction pionnière en matière de conspirationnisme, a fait douter toute une génération avant d'être récupérée par des mouvements politiques. Que reste-t-il de X-Files 25 ans après, 25 années après, à l'heure des fake news et des théories du complot, à l'heure où tant d'entre nous pensent que, attention, la vérité est ailleurs. Retour en 1993 aux frontières du réel.
L'instant M avec Sonia De Villers sur France Inter.
Je m'appelle Fox Mulder. Depuis mon enfance, je suis homme jubilé par un phénomène global controversé. Cela a commencé à l'âge de 12 ans lorsque ma sœur a disparu, au cours de ce que je considère être un enlèvement par des extraterrestres. Mon obsession m'a conduit au FBI, où j'ai enquêté sur des affaires touchant au paranormal au sein d'un service appelé les affaires non classées. En 1993, le FBI a remis mon travail en question en m'envoyant une scientifique titulaire d'un doctorat en médecine pour me discréditer, ce qui ne fit qu'accentuer mon obsession pendant près d'une décennie. Durant cette période, l'agent en question, Dana Scully, vit ses propres convictions rudement mises à l'épreuve.
Voilà, c'était donc la voix française de David Duchovny tirée de X-Files. Et en même temps que je vous parle, je découvre ma carte d'agent spécial du FBI à mon effigie et à mon nom, numéro XF58-85-97. C'est une petite blague de mon réalisateur François Audouin. Je vous présente mes invités et vous les connaissez déjà, Romain Nigita. Bonjour Romain.
Bonjour Sonia.
Notre docteur S-Série, puisqu'aujourd'hui nous parlons science et Romain est de retour dans l'instant. M. Séverine Barthes à vos côtés. Bonjour Séverine.
Bonjour Sonia.
Maîtresse de conférence à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Voilà, un petit mot quand même sur ce générique qu'on vous a fait réentendre, cet indicatif. Je rappelle que la première fois que les Français l'ont découvert, c'est sur M6 en juin 94. Il est signé Mark Snow. On peut raconter ce qu'il y a à l'image, Romain Nigita, ce fond noir, cet objet volant non identifié, virus, cette tête de monstre.
On a un enchaînement d'images très étranges. On ne sait absolument pas à quoi elles correspondent. D'ailleurs, c'est même pas des extraits de la série, ce qui se faisait encore beaucoup à l'époque. Là, c'est des pures créations pour ce générique. On en avait fait cette musique qui a été composée au dernier moment, puisque Mark Snow avait créé d'autres versions, mais qui ne plaisaient pas à Chris Carter. Et c'est vraiment dans la dernière ligne droite qu'ils ont réussi ça, quasiment par hasard. Ils se disent, tiens, je vais essayer un truc avec un espèce de sifflement et un bruit d'écho. J'y crois pas trop, mais Chris Carter a adoré.
Alors, un mot également sur ce choc, sur cette rupture qu'a constitué X-Files dans le paysage, on va dire, de la science-fiction à l'époque, à la télévision.
Alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, donc on est en 1993, la science-fiction, le fantastique, l'horreur sont pris en dérision, d'une manière générale, que ce soit au cinéma ou à la télévision. On en est au 6e film Freddy, on en est au 8e de Vendredi 13, enfin, tout ça est vraiment vu comme de la rigolade. Plus personne ne prend au sérieux la peur. Et c'est là que débarque justement X-Files en disant, bah non, nous on va prendre au sérieux tout ça, on va prendre au sérieux les histoires d'extraterrestres, de vampires, ce qui ne se faisait quasiment plus à la télévision.
Avec à l'appui des effets visuels extrêmement soignés, c'est-à-dire
on est au début de la révolution des images de synthèse. Voilà. 93, c'est la sortie de Jurassic Park. Ça coûte encore malgré tout très cher. Et ce qu'on a dans X-Files, c'est à la fois une photographie, donc une lumière très élaborée et très sombre, ce qui se faisait également très peu à part Twin Peaks quelques années avant. On a quelques images de synthèse avec parcimonie. On a encore beaucoup de trucages à l'ancienne, des maquillages. On a du sang. Donc c'est tout ce mélange-là très soigné et pris au sérieux par toute l'équipe qui va faire le succès de la série. Mais c'est vrai qu'au départ, quand c'est pas lancé comme étant la grande nouveauté de la saison.
Alors, zombies, extraterrestres, loups-garous, oui, mais en même temps, ce qui a passionné toute la planète X-Files, c'est la façon dont cette série s'est emparée des progrès technologiques et des angoisses qu'ils pouvaient susciter. Et oui, il y a eu un épisode sur le prion, sur Crossfell Jacob, bien avant que l'affaire soit médiatisée, que le scandale sanitaire arrive à la une des journaux.
Dans les 50 dernières années, 87 personnes ont disparu dans la région. Je crois que tous ces braves gens de Dudley ne se sont pas contentés de manger de la volaille.
Tu crois qu'ils se sont mangés entre eux ?
Séverine Barthes, évidemment, c'est ce rapport à la science qui est absolument passionnant, mais passionnant dans X-Files.
Oui, et c'est la manière aussi dont il, et là l'exemple est assez frappant, comment Chris Carter et son équipe tressent ensemble à la fois des choses extrêmement modernes, par exemple le prion, et des choses qui sont totalement fondamentales en termes d'horreur ou d'épouvante, etc., le cannibalisme. C'est-à-dire qu'on voit bien comment les peurs modernes, pour les faire passer, pour les mettre en scène, ils utilisent aussi des vecteurs très éprouvés, et qui renvoient à des peurs extrêmement, j'ai envie de dire, animales, quasiment instinctives, de l'homme, des tabous. Extrêmement profond.
Et là-dedans, on insère la bioéthique, la génétique, la biotechnologie, le clonage, c'est-à-dire tout ce que petit à petit le public découvre avec les interrogations et les mystères, et la part de mystère que ça suscite.
Oui, et puis comment tous ces progrès techniques, la miniaturisation, les implants, tout ce genre de choses, comment justement on les traite de manière aussi paranormale, c'est-à-dire qu'on ne sait non plus, il y a toujours, enfin ou souvent, pendant longtemps dans les épisodes, une espèce de balancement entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une projection le fruit de l'imagination, etc. Et c'est aussi dans ce rapport-là d'appropriation de la science qui passe par un moment d'incrédulité, qui est aussi intéressant dans la façon dont la série est construite.
Alors justement, hein, parce que toute la série est construite sur un duo, c'est deux agents spéciaux, Fox et Mulder, donc c'est toujours leur double... Fox Mulder et Dana Scully, donc Fox et Mulder et Scully, voilà, je vais y arriver. Et il y a toujours cette opposition entre la science et le pragmatisme, le scepticisme et le mysticisme, extrait de dialogue justement entre ce couple.
Croyez-vous à l'existence des extraterrestres, agent Scully ?
En toute logique, je devrais vous dire non. Étant donné les distances qui séparent les régions les plus éloignées de l'espace, l'énergie requise pour les traverser excède les capacités d'un vaisseau spatial.
Argument bien connu. Quand la science conventionnelle ne vous apporte aucune réponse, est-ce qu'on ne doit pas en fin de compte introduire le fantastique dans le champ des plausibilités ?
La plausibilité, la crédulité, Romain Nigita, c'est au cœur d'X-Files.
Fox Mulder est quelqu'un pour qui ce qui va diriger sa vie, c'est la quête de la vérité. Alors, il va pas pour autant être totalement crédule, il va quand même utiliser des outils scientifiques. C'est-à-dire que le format de la série, ça reste quand même une série policière, au fond. Si on connaît pas la série, on peut presque confondre ça avec un épisode de New York District. Il y a même les dates qui s'affichent à l'écran, donc ça apporte justement ce souci du détail. Et donc, en effet, on a cette opposition entre Fox Mulder d'un côté et Dana Scully, mais cette opposition est même très paradoxale. En effet, on sort des clichés, on a le personnage féminin qui est celle qui travaille dans la science dure.
Absolument.
Puisqu'elle a un doctorat en médecine, elle a même un doctorat en physique, en
absolument.
Plus. Et on a donc Fox Mulder qui est celui qui, a priori, il croit le plus au paranormal et aux choses non prouvées. Et dans le même temps, c'est Dana Scully qui a une véritable foi religieuse dans la chrétienté.
Ouais.
En elle-même, il y a cette dualité, alors que Fox, qui lui croit dans les extraterrestres,
est athée.
Donc on a justement ce combat, ce dialogue superbement intéressant pendant toute la série. Et d'ailleurs, ça va évoluer, puisque évidemment, Dana Scully ne peut pas rester de marbre face à tout ce qu'elle voit, à tous les éléments de preuve qu'ils réunissent au fur et à mesure de la série. Elle ne va pas devenir aussi fondamentalement persuadée que Mulder, que les extraterrestres existent, mais elle va comprendre qu'en effet, il y a quelque chose qu'on leur cache.
Il y a quelque chose qu'on leur cache, voilà. Séverine Barthes, c'est très intéressant, ce dialogue entre les sciences humaines, puisque je rappelle que Fox Mulder est lui-même diplômé en psychologie à Oxford, donc il y a une opposition entre les sciences humaines, comme le disait Romain, et les sciences dures, les sciences molles et les sciences dures. Ce personnage de Dana Scully, c'est quand même un personnage féminin extrêmement important à l'époque à la télévision américaine.
Elle est importante parce que d'abord, c'était extrêmement rare d'avoir des femmes scientifiques à l'écran. C'est la première ou une des premières femmes scientifiques réellement mises en scène comme détentrice d'un savoir exploité, mise en scène, etc. À tel point d'ailleurs qu'il y a eu ce qu'on a appelé un Dana Scully effect, c'est-à-dire que de nombreuses jeunes femmes se sont ensuite orientées, à la suite de la diffusion d'X-Files, dans des carrières scientifiques, des études de médecine, de sciences dures, des carrières dans la police, le FBI, etc.
On peut la décrire peut-être physiquement, parce que Chris Carter s'est beaucoup battu pour que Gillian Anderson ait ce rôle. Elle est assez petite de taille, elle est rousse.
Elle est beaucoup plus petite que Duchovny, qui lui est très grand.
Voilà.
L'actrice était très jeune, c'était quasiment son premier rôle. Et en fait, le personnage était vraiment basé, y compris dans son apparence, sur le personnage de Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux.
Voilà.
Qui est l'une des très grandes influences de la série, dans l'ambiance, dans la lumière, même un peu dans la musique. Le côté serial killer qu'on retrouve un peu dans la série, même les scènes d'autopsie. On n'a jamais vu autant de scènes d'autopsie dans une dans une série avant qu'il y ait des experts 10 ans plus tard.
Mais donc il faut la décrire, il faut même décrire ses vêtements, c'est-à-dire qu'elle a toujours ce tailleur impeccable à épaulettes, évidemment on est dans les années 90, la chemise blanche boutonnée jusqu'au col. C'est un personnage très austère, Séverine Barthe, et c'est aussi l'histoire d'un duo avec une relation platonique qui va passionner les fans, c'est-à-dire... Quand vont-ils faire l'amour? Quand, à un moment ou un autre, la bouche semi-ouverte de Gillian Anderson va-t-elle déposer un baiser sur les lèvres de Fox Mulder? Mais vraiment!
Oui, ça c'est le combat éternel entre les shippers et les autres.
Les shippers, c'est les fans justement qui sont intéressés par cet aspect-là de la série.
D'accord.
Et donc les autres qui sont plus intéressés par la partie science, enquête, complot, mythologie.
Non mais c'est dire aussi que dans la relation qu'a écrite Chris Carter entre ces deux personnages, là aussi il y avait de la complexité, il y avait du non-dit.
Bah, l'austérité, elle vient aussi du fait que ce sont des agents du FBI, où il y a aussi un dress code et donc précis, et donc ils en jouent, Carter et son équipe en jouent. En même temps, elle est d'une rousseur flamboyante.
C'est vrai.
Dana Scully. Donc on a aussi physiquement ou visuellement cette tension entre une forme d'austérité et une forme de passion ou de vigueur qui est là.
Alors, qui est l'homme à la cigarette? Extrait.
Les hommes ne seront jamais libres parce qu'ils sont faibles, corrompus, indignes et agités. Les gens ne croient qu'en l'autorité. Ils sont là d'attendre vainement des miracles et des mystères. La science est leur religion. Aucune autre explication n'existe pour eux. C'est pour qu'ils persistent à le croire que notre projet doit aller de l'avant.
Qui est l'homme à la cigarette, Romain Mijita? Déjà, il fume. C'est
déjà,
pas
il fume,
rien,
ce qui est un
petit
grand
écran
tabou
américain.
Aux États-Unis. Ouais. Alors, l'homme à cigarette, c'est tout simplement le grand méchant de la série, s'il faut vraiment en désigner un. Alors, qui est-il réellement? C'est très compliqué de le dire parce qu'il y a beaucoup d'éléments souvent contradictoires. Le seul épisode qui donne des éléments sur sa vie est en fait raconté de son point de vue, donc on peut mettre absolument en doute tout ce qui est raconté. Mais grosso modo, ce qu'on sait à peu près, et ce qui est à peu près vérifié, c'est qu'il est le père biologique de Mulder. Donc, il y a un petit côté Dark Vador. Ça, on l'apprend assez vite. On l'apprend à la fin de la saison 2, si je dis pas de bêtises. C'est le père biologique. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait avec le père qui a élevé Mulder. Oui. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans les arcanes du pouvoir dès les années 50. C'est quelqu'un qui est là, en grosso modo, pour diriger le complot qui vise à la colonisation de la Terre par des extraterrestres.
D'accord.
Lui, son excuse, c'est qu'au moins, en étant là, il va éviter à l'espèce humaine d'être totalement éradiquée. Il va pouvoir permettre à certains qu'il va choisir sur ses propres critères de survivre. Mais donc voilà, il est toujours dans l'ombre pour manipuler Mulder, souvent pour le mettre sur des fausses pistes.
Séverine Barthe, on en vient au cœur de ce sujet. Donc la vérité est ailleurs et on cache tout un pan de l'histoire politique américaine au public.
Oui, d'ailleurs, l'épisode auquel faisait référence Romain est un épisode qui raconte l'assassinat de Kennedy et l'implication supposée de l'homme à la cigarette dans ce mystère qui est l'assassinat de Kennedy. Donc on voit bien comment cela nourrit en fait totalement la série. Il y a un peu deux jambes. C'est d'un côté l'assassinat de Kennedy et tout ce qui s'en est ensuivi en termes de stupeur,
de
mise à mal du politique, etc. Et le Watergate. C'est-à-dire d'un côté le positif fauché dans sa splendeur et de l'autre côté le négatif caché qui est mise au jour. Et c'est un peu l'idée que donc il n'y a rien qui puisse en sortir quelque part de bien.
Avec l'idée qu'on remet totalement en question les institutions, leur crédibilité, leur légitimité et leur pouvoir.
Oui, d'ailleurs le fait qu'ils soient à la cave, que les affaires non classées soient mises à la cave dans le bâtiment du FBI montre bien que même l'institution qu'ils défendent elle-même est en position délicate ou difficile par rapport à cette réalité qu'ils montrent. Et donc effectivement, tout est remis en cause en permanence.
Alors, on va vous le raconter, cette série sera même récupérée par l'extrême droite, y compris en France. Écoutez comment on manipule la vérité dans X-Files.
Libre à vous de nier toutes les choses que j'ai vues, toutes les choses que je viens de découvrir, mais ça ne pourra pas durer. Parce qu'il y a trop de gens qui savent ce qui se passe. Et aucune loi, aucun gouvernement sur Terre n'aura jamais le droit de manipuler la vérité.
Non mais c'était il y a 25 ans. c'était il y a 25 ans. C'est-à-dire que l'entendre aujourd'hui, c'est absolument incroyable.
C'est incroyable, et en même temps, le rapport à la vérité, à la fois dans notre réalité et dans la série, a évolué. Puisque donc le principal d'X-Files, les 9 premières saisons, c'était dans les années 90. Mm-hmm. Et il y a eu 2 saisons plus récentes, dont la dernière cet hiver, qui elle prend en compte le changement qu'on peut avoir par rapport à la vérité. Dans les années 90, la vérité, c'était elle est cachée, il faut la trouver. Mmh. Aujourd'hui, le paradigme avec notamment les fake news et Trump, et ce qui est clairement cité dans la série, c'est que la vérité, on ne sait même plus ce que c'est. Elle est là, il y a plusieurs vérités, tout le monde dit absolument tout et n'importe quoi, et y compris les fans de la série par rapport à la série. Il y a un épisode dans la dernière saison dont le titre original est The Lost Art of the Sweating Forehead, qui joue en fait sur le fait que les gens ont des souvenirs biaisés de tout, aussi bien de la vérité politique que de la pop culture. Parce que typiquement, sur les dernières saisons, il y a une partie du public qui dit « bah tiens, c'est moins bien que ce qu'était la série avant, je me souvenais pas de la série comme ça », alors qu'en fait c'était bien conforme à la série. Et ce discours-là parlait aussi de la vérité politique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de débusquer la vérité, il s'agit d'identifier ce que peut bien être la notion de vérité.
Séverine Barthes, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut raconter que dans les années 90, c'est les débuts d'Internet, c'est le début de la communauté des fans. Donc se tisse un lien entre Chris Carter, son équipe, la série et le public absolument inédit dans l'histoire de la série.
C'est une des premières séries où cette interaction, d'abord cette construction de fans sur Internet qui démultiplie en fait la possibilité des échanges. Parce qu'il y avait des communautés de fans avant, mais les modalités de communication sur Internet permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de manière plus ouverte. Chris Carter lui-même regardait ce qui se passait sur Internet, voire intervenait, discutait et
intégrait quand même des références aux fans dans la fiction.
Il y a effectivement une sorte de phénomène de rétroaction. Par exemple, une chose assez connue dans les génériques de la saison 9, il y a des listes de témoins qui apparaissent dans les génériques qui sont en fait des listes de pseudonymes de gens qui sont sur les forums. Mais il y a même dans la série même des intégrations, par exemple d'images de fans. Le personnage de Leila Harrison qui apparaît dans 2 épisodes de la saison 8 et de la saison 9, qui en fait travaille à la comptabilité du FBI et donc connaît toutes les enquêtes de Mulder et Scully par le biais de leurs notes de frais. Mm-hmm. Elle apparaît dans des épisodes et elle leur pose des questions qui sont les questions que nous on a, qui sont les trous laissés par la narration, les questions laissées en suspens. C'est une fan absolue de Mulder. Mais ce qui est intéressant, c'est que son nom ne vient pas non plus de n'importe où. Son nom, c'est celui d'une fan qui est morte en 2001 d'un cancer. Et donc, non seulement le personnage est une incarnation des fans, mais même dans le nom, elle est une référence à la communauté réelle de fans de X-Files.
Dans ce terreau du conspirationnisme et du complot, à quoi a donné lieu X-Files après sa fin en 2002 des saisons originales ?
Ah bah X-Files en termes de complot aujourd'hui ne serait plus possible en tant que tel parce qu'en fait il a popularisé d'une certaine manière ces théories ces théories là.
Donc ça c'est fait.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler du complot comme le faisait X-Files.
Non, c'est vrai que maintenant, quand la série s'arrêtait en 2002, c'est vrai qu'elle était un peu à bout de souffle, elle est morte de sa belle mort. C'est plus lors du pic de popularité au milieu des années 90 qu'elle a engendré énormément de séries de science-fiction. Ce qui s'appelait à l'époque aux États-Unis le sci-fi boom. Ouais. Des séries comme Sliders, comme Buffy, comme Le Caméléon, toutes ces séries-là ont été lancées suite à X-Files. Dans Le Caméléon, on avait aussi un peu un aspect complot. Mais c'est vrai que du coup, ça a été tellement battu en brèche par la série que derrière, le thème était un peu épuisé.
Merci beaucoup à tous les deux, Séverine Barthes, Romain Nigita, d'être venus célébrer avec nous les 25 ans de X-Files.